Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme dont voici le principal titre. Le pape a présidé lundi dans la salle du consistoire du palais apostolique du Vatican la célébration de la troisième heure et le consistoire ordinaire public pour la canonisation de cet bienheureux. On en parle tout à l'heure en actualité de l'Église avant de nous enquérir de nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est en République démocratique du Congo et au Cameroun notamment. En actualité sociopolitique, nous évoquerons la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo avant de faire le point sur la situation au Tchad, au Niger, au Nigeria et en Afrique du Sud. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le pape a reçu lundi en audience privée M. Fouad Youssen, ministre des Affaires étrangères de l'Irak, et ses collaborateurs. Par ailleurs, le Saint-Père a présidé lundi dans la salle du consistoire du palais apostolique du Vatican la célébration de la troisième heure et le consistoire ordinaire public pour la canonisation des bienheureux Lazare et laïc martyr César de Bus, prêtre fondateur de la congrégation de pères de la doctrine chrétienne, bienheureux Luigi Maria Palazzolo, prêtre fondateur de l'Institut des Sœurs des Pauvres, Institut Palazzolo, bienheureux Justin Maria Russolillo, prêtre fondateur de la Société des Vocations Divines et de la Congrégation des Sœurs des Vocations Divines, bienheureux Charles de Foucault, prêtre diocésain, bienheureuse Marie-Françoise de Jésus, fondatrice des Sœurs Tertiaires Capucines de Loano, la bienheureuse Maria Domenica Mantovani, cofondatrice et première supérieure générale de l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Le pape a adressé lundi un message à Mgr José Manuel Garcia Cordero, évêque de Brangata Miranda et président de la Commission épiscopale portugaise pour la liturgie et la spiritualité. C'était à l'occasion du 25e pèlerinage des servants d'autel qui s'est tenu au sanctuaire marial à Fatima le 1er mai dernier. Dans son message, l'évêque de Rome a invité les participants à ce pèlerinage à offrir à Jésus leurs mains, leurs pensées et leur temps. Et Jésus leur a-t-il dit « Ne manquera pas de vous récompenser en vous donnant la vraie joie et en vous indiquant où se trouve le bonheur le plus complet ». Pour conclure son message, le pape a proposé la figure de Saint Joseph comme modèle parfait et original du servant d'autel de Jésus. Joseph a exhorté François à mettre de côté ses plans pour suivre ceux de Dieu, saisissant la Vierge Mère avec le Fils qu'elle porte en son sein et les emmenant dans sa maison. Le pape a enfin prié pour que Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille et patron de l'Église universelle, garde et protège tous les servants d'autel du Portugal avec ceux qui les accompagnent, les dynamisent et les instruisent depuis les familles et les catéchistes jusqu'aux structures diocésaines et nationales sous le regard paternel de curés et des prêtres. En République démocratique du Congo, l'évêque du diocèse d'Inongo, Mgr Donatien Bafouidine Sony, a adressé un message le samedi 1er mai dernier aux hommes et aux femmes de bonne volonté au sujet de la décentralisation des provinces par le gouvernement congolais. Le message de l'évêque d'Inongo intitulé « N'agissons pas comme des mercenaires » dénonce le fait que la classe politique provinciale où se trouve son diocèse s'adonne aux querelles et débats stériles alors même que la situation socio-économique de la population n'est fait que se dégrader au jour le jour. Mgr Bafouidine Sony tire la sonnette d'alarme en interpellant les filles et fils de Maïndombe, chacun à son niveau de responsabilité, pour un changement profond dans la manière de vouloir servir ou de gérer cette province, si telle est la prétendue motivation du discours des uns et des autres. Il exhorte par ailleurs la population de Maïndombe à rester unie et vigilante pour faire face aux velléités de division et d'embrasement de la province. Ne vous laissez pas tromper par des discours démagogiques et populistes. Formez-vous et informez-vous sur les vrais enjeux de notre province, leur a déclaré le pasteur de l'église d'Inongo. On l'écoute.
N'agissons pas comme des mercenaires. Cette décision constitue en fait une véritable opportunité de décollage pour la province de Maïndombe au regard de ses innombrables ressources humaines agricole, aquatique, halieutique et géologique. Avec une bonne gestion de toutes ses potentialités, on se serait attendu à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais hélas, nous sommes étonnés que devant les enjeux et défis majeurs actuels de développement, la classe politique provinciale choisisse de s'adonner aux querelles et débats stériles, alors même que la situation socio-économique de la population n'est fait que se dégrader au jour le jour. Nous en voulons pour preuve l'absence de structures de base, de routes, d'entreprises, d'accès à l'eau potable, d'électricité, d'université ou d'instituts supérieurs dignes de ce nom. On ne dénombre même pas un seul petit centre de santé construit par le gouvernement provincial depuis que le Maïndombé a été érigé en province.
Monseigneur Bafouedi Nsoni, évêque du diocèse d'Inongo en République démocratique du Congo. Toujours en République démocratique du Congo, notre correspondant local nous rend compte de la célébration de la Journée mondiale des vocations au diocèse de Dungu-Doruma.
Au diocèse de Dungu-Doruma, dans la province du Haut-Uele, des centaines de jeunes de toute la ville de Dungu se sont rendus tôt le matin du dimanche 25 avril pour participer à la messe présidée par l'évêque pour la Journée mondiale des vocations dans l'église paroissiale Mater Admirabilis. Monseigneur Richard Domba a rappelé l'importance de la famille et de l'Église pour entretenir la vocation, l'appel venant de Dieu.
Il faudrait que la jeunesse soit bien formée. Ce sont les jeunes qui entrent dans nos maisons de formation. Et ici aussi, chez nous, Dieu appelle. Alors, il faut répondre positivement à l'appel de Dieu. Parce qu'on peut refuser aussi. L'intéressé, celui qui est appelé, n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui doivent collaborer, conjuguer des efforts pour qu'ils puissent répondre positivement à cet appel. Il y a lui-même d'abord qui est appelé, les parents sont là aussi pour aider les formateurs dans les maisons de formation. Et puis la société, l'ensemble, les chrétiens, la communauté chrétienne qui prie et qui contribue aussi parfois matériellement pour nos maisons de formation, les petits séminaires surtout et les grands séminaires de temps en temps parfois.
La Journée mondiale des vocations a été célébrée au diocèse de Dungu-Doruma comme la journée diocésaine des jeunes. Pour le père Robert Kinalegu, directeur de la commission diocésaine de la jeunesse, les jeunes ont été suffisamment informés et formés à travers tout le diocèse dans des retraites et conférences sur leur rôle de leader de demain. Jean-Baptiste Malengi Kalunzu pour Radio Vatican.
Le cléricalisme et le patriarcat font partie des instruments utilisés pour faire progresser les abus dans l'Église et dans la société. C'est ce qu'a déclaré la sœur José Ngalula, religieuse congolaise, membre de la congrégation de Saint-André, lors d'une conférence organisée par la Conférence jésuite d'Afrique de Madagascar, JICAM. Une observation attentive des situations d'abus d'enfants dans l'Église et dans toutes les religions montre qu'il existe malheureusement un lien étroit entre le patriarcat, le cléricalisme et l'abus de personnes vulnérables, a déclaré sœur Ngalula, pour qui le patriarcat a influencé le cléricalisme en Afrique. Dans sa présentation intitulée « Combattre le cléricalisme et le patriarcat comme instrument d'abus dans l'Église et la société », la professeure de théologie dogmatique à l'Université catholique de la RD Congo a observé que dans les cas d'abus sexuels dans l'Église, les enfants sont le plus souvent vulnérables. Selon la religieuse congolaise, on peut avoir trois formes d'abus. L'abus de confiance que l'enfant place dans l'adulte, l'abus de confiance du laïc dans un ministre des grâces divines dans l'Église et la perversité de profiter de la vulnérabilité physiologique, psychologique et sociale de l'enfant. Pour la religieuse, les fidèles qui ont assimilé le cléricalisme reproduisent les mêmes comportements déviants des clercs lorsqu'ils ont des postes à responsabilité dans l'Église. Ils n'accusent pas non plus les clercs des abus commis dans l'Église et la société et enseignent que dire du mal d'un clerc est un péché et une attaque contre l'Église. Direction Burkina Faso pour parler de la messe solennelle célébrée le dimanche 2 mai dernier en conclusion du colloque sur la vie et l'œuvre du cardinal Paul Nzoukrana.
Une messe solennelle ce dimanche 2 mai 2021, concélébrée par une dizaine d'évêques et une cinquantaine de prêtres sous la présidence du cardinal Philippe Ouédraogo. C'est par là que se sont achevés les 4 jours de travaux du colloque sur la vie et l'œuvre du cardinal Paul Nzoukrana. De nombreux témoignages ont été donnés, comme par exemple celui du pasteur évangélique Mamadou Philippe Karambiri.
le cardinal Paul Zumbrana, l'homme du dialogue qui permettait, comme disait un de ses confrères africains, de marcher sur les œufs. Il est le sage qui a su rassembler, unir, animer dans la fermeté et la communion.
Où demeure Pauline Sabadogo, actuelle supérieure générale des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou?
Le cardinal Paul Zumbrana, comme l'a écrit Mgr Wenceslas, derrière les apparences et les apparats de sa fonction, battait un cœur d'or, de miséricorde et de bonté qui savait pousser la délicatesse jusqu'à l'extrême.
Le cardinal Philippe Ouédraogo apprécie
les différents témoignages donnés à son sujet confirment une fois de plus les richesses de sa personne, la profondeur de son sacerdoce et le cœur avec lequel il a construit cette église particulière de Ouagadougou à ses débuts. Notre église, famille de Dieu, voudrait faire de la clôture solennelle de ce colloque une ouverture pour la marche vers sa béatification, tout en rendant grâce à Dieu pour sa vie et son œuvre.
Paul Ada, Ouagadougou pour Radio Vatican.
Rendons-nous au Cameroun pour parler de la consécration de l'église paroissiale Saint-Philippe et Jacques de Ndoko. Les détails dans ce compte rendu de notre correspondante locale.
La consécration de l'église paroissiale Saint-Philippe et Jacques de Ndoko a retenu l'attention de tout le diocèse à cause de son ancienneté. En effet, cette paroisse a été créée en 1948, 13 ans avant la fondation même du diocèse de Mbalmayo. L'église paroissiale, quant à elle, a été bâtie de 1956 à 1960 par un prêtre spiritain, le père Arsène Tranoï. Pour Mgr Joseph Marie Diokala, la joie était à son paroxysme d'être témoin de cet événement et de présenter au Seigneur les intentions et les offrandes des familles peuplant ce village qu'il avait d'ailleurs visité pour la première fois en 1981. Mgr Joseph Marie Diokala les a invités à devenir chaque jour un peu plus l'église famille de Dieu. Tout ce qu'il s'est passé en Donko, comme lourdeur et pesanteur, nous l'offrons au Seigneur. Dieu s'est tourné la page, nous devons en faire autant, a-t-il déclaré, tout en encourageant les élites de Donko à continuer de soutenir cette paroisse. Au cours de la messe de consécration de l'église Saint-Philippe et Jacques de Donko, 32 fidèles ont reçu le sacrement de confirmation. Ils ont été invités à consolider la communion ecclésiale dans le secteur d'Obout, qui abrite la paroisse en fête. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La République démocratique du Congo a officiellement déclaré lundi la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola, près de 3 mois après sa résurgence dans le Nord Kivu grâce à l'utilisation d'un vaccin. Un total de 12 cas ont été enregistrés avec 6 décès et des centaines de personnes vaccinées depuis la réapparition de l'épidémie le 7 février dernier dans la province du Nord Kivu, a indiqué le ministre congolais de la Santé Jean-Jacques Mbungani. 2 semaines après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, la junte au pouvoir dirigée par son fils Mahatma Idriss Déby a nommé dimanche un gouvernement de transition pour répondre aux inquiétudes internationales et intérieures. Par ailleurs, Saleh Kebzabo, principal opposant au président défunt Idriss Déby, a reconnu dimanche les nouvelles autorités. Et 2 membres de son parti, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, ont été nommés au poste des ministres dans ce gouvernement. 24 présumés terroristes capturés mercredi dernier dans l'armée dans l'ouest du Niger, proche du Mali, ont été tués alors qu'ils tentaient de s'évader, indique un communiqué du gouvernement publié dimanche soir. Par ailleurs, 16 soldats nigériens ont été tués et un autre porté disparu à la suite d'une embuscade tendue samedi par des hommes armés contre une patrouille de la garde nationale dans la zone des Tilia dans la région des Taou, proche du Mali, ont indiqué dimanche les autorités locales. Des sources militaires nigérianes ont annoncé dimanche que des djihadistes ont attaqué samedi soir et dimanche matin 2 bases de l'armée dans le nord-est, submergeant l'une des 2 bases et tuant au total 8 personnes, un officier et 7 civils.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
En Afrique du Sud, où la campagne de vaccination contre le Covid-19 a pris du retard, la livraison du premier lot d'une commande totale de 4,5 millions de doses de vaccins du laboratoire américain Pfizer a eu lieu dimanche soir. L'arrivée d'un nombre similaire de doses est prévue chaque semaine jusqu'à la fin mai, puis la fourniture augmentera en moyenne à 636 480 doses hebdomadaires à partir du 31 mai. Nous permettons d'atteindre près de 4,5 millions de doses d'ici la fin juin, a expliqué le ministre de la Santé. Le parquet de Paris en France a requis un non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors du massacre de Bicêtre fin juin 1994 pendant les génocides au Rwanda. La décision finale revient désormais au juge d'instruction. Poursuivons notre programme avec le magazine sur la santé que nous présente Marie-Josée Mwando Boabolo.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé concerne la célébration mercredi 5 mai de la Journée mondiale de la sage-femme. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société, les compétences nécessaires et la diversité dans leur activité quotidienne. Reconnue comme profession médicale, la sage-femme est le professionnel de la santé de la femme en tant que premier recours. Cela veut dire qu'elle réalise le diagnostic et la déclaration de la grossesse, le suivi de la grossesse, la préparation à la naissance et à la parentalité, le diagnostic et le suivi du travail, l'accouchement, la surveillance de la mère et de l'enfant en postpartum et à travers les examens cliniques et complémentaires, la visite postnatale, la rééducation périnéale, la prescription des médicaments, vaccins et examens nécessaires à son exercice. Le suivi gynécologique de prévention et des consultations de planification familiale, de conseil conjugal et familial, les échographies obstétricales et gynécologiques lorsqu'elle est titulaire d'un diplôme nécessaire, le diagnostic et le suivi des pathologies de la grossesse en lien seulement dans ce cas avec le médecin. Dans certains pays, une femme qui survit à l'accouchement est une miraculée. Dans d'autres, l'idée même qu'une femme puisse mourir en donnant naissance est impensable. Le taux de mortalité maternelle mondiale nous rappelle que mourir pendant l'accouchement est toujours un fléau qui touche des centaines de milliers de femmes, au moins 340 000 par an. La principale cause, un manque d'accès aux soins de santé qualifiés, c'est-à-dire à des centres de santé techniquement équipés dont le personnel médical est formé à la prise en charge des urgences obstétriques. Le 5 mai, Journée internationale de la sage-femme, nous rappelle l'importance de leur rôle pour l'amélioration de la santé maternelle dans le monde entier. Dans les pays en voie de développement, elles ne sont parfois que quelques-unes par village, là où elles devraient être le triple. Elles sont souvent confrontées à un manque de matériel médical pour mener à bien leur travail. Bien que leur présence soit essentielle, il n'y en a pas assez. Trop de femmes accouchent sans assistance et cette journée met en lumière ces travailleurs de l'ombre ainsi que leur rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle. Outre la sensibilisation, cette journée joue un rôle important dans la prévention des complications liées à l'accouchement et dans leur prise en charge médicale. L'Organisation mondiale de la santé avait désigné 2020 l'année marquant le bicentenaire de la naissance de Florence Nightingale comme l'année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. Les sages-femmes et le personnel infirmier œuvrent à tous les niveaux des systèmes de santé et dans divers cadres et contextes en vue de dispenser des soins de qualité, diriger des équipes, mener des recherches, influencer et mettre en œuvre les politiques et former la prochaine génération d'infirmiers et de sages-femmes. En résumé, le rôle est essentiel pour réaliser la couverture sanitaire universelle dans le monde entier. Tout au long de l'année 2020 et notamment lors des activités organisées à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a collaboré étroitement avec ses partenaires afin de rendre hommage au travail apporté par les sages-femmes et le personnel infirmier, de mettre en évidence les défis auxquels ils sont souvent confrontés et de plaider en faveur d'un investissement planifié dans le personnel infirmier et obstétricien. Cette campagne d'une année était l'occasion de s'investir et de montrer qu'il existe un large soutien public et politique en faveur d'une hausse du nombre d'agents de santé dotés des compétences adaptées et exerçant au bon endroit, et ce, en vue de répondre au mieux à l'évolution des besoins de la population en matière de soins de santé et d'aide sociale.
Invité du jour.
Notre invitée du jour est Madame Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de la République du Togo. Dans cette première partie de l'entretien, faite à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai dernier, Madame Dossou parle de la politique de l'emploi jeune mise en place par le gouvernement togolais. Elle commence par souligner les efforts de son gouvernement pour le bien-être de la jeunesse togolaise. Suivons.
Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, si l'on se met sur une année, le Togo offre suffisamment d'emplois pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché. Mais il faut savoir qu'il y a des efforts qui sont faits sous toutes les formes par le gouvernement pour permettre à toutes les catégories de jeunes de trouver un emploi ou d'avoir une activité génératrice de revenus qui leur permet de vivre décemment et d'être épanouis. La question de l'emploi, elle est abordée, on pourrait le croire, prioritairement à travers les emplois offerts par l'administration publique ou le secteur privé formel. Mais aussi, et ce sur quoi nous nous engageons depuis plusieurs années, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Que les jeunes puissent avoir des initiatives d'entreprendre et de créer aussi de l'emploi. Ça permet en fait d'avoir un effet de levier pour pouvoir proposer et offrir des emplois décents aux jeunes. Nous avons également initié des mécanismes pour les accompagner, que ce soit dans des activités génératrices de revenus à travers des formations et des financements adaptés à leur profil, mais aussi en les engageant des fois sur des actions de contribution de civique.
Justement, Madame la Ministre, nous allons parler de cette politique mise en place par le gouvernement togolais concernant l'emploi jeune. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour le jeune togolais?
Plusieurs mécanismes sont mis en place, comme je le disais. Vous avez le Fonds d'aide à l'initiative pour l'emploi des jeunes, donc pour l'entrepreneuriat. Vous avez des systèmes de garantie pour pouvoir financer les idées novatrices des jeunes entrepreneurs, pour leur permettre en fait de faciliter leur accès au système financier. Le gouvernement a mis en place depuis une dizaine d'années un ensemble de mécanismes qui concourent à porter le jeune. Il ne s'agit pas uniquement de financer, mais de les accompagner. À partir du moment où germe une idée, jusqu'à la structuration, la maturation du projet, en les formant dans différents domaines. Il y a également l'agriculture, le dispositif de soutien. Il existe trois dispositifs, au moins, de soutien à l'agriculture et aux activités des jeunes. On a le MIFA qui est le mécanisme d'incitation de financement agricole. Donc, à travers ce mécanisme, le jeune peut avoir accès à un financement en faisant partie sur la base d'une approche chaîne de valeur. Il y a également un programme très intéressant qui a permis de créer plus de 30 000 emplois. C'est un projet qui est construit autour de chaînes agricoles dans les secteurs porteurs identifiés. Dans la filière donc du manioc, on a pu trouver ces dernières années un grand intérêt, l'existence d'un marché. Et donc, tout part de l'existence d'un besoin d'un marché et on construit derrière une filière. Plus de 30 000 emplois décents ont été créés par ces projets-là. Au niveau de l'agriculture maintenant, l'objectif étant de faciliter l'entrepreneuriat agricole et ces jeunes sont formés, ils sont accompagnés avec la stratégie du gouvernement. Nous avons réalisé les dernières semaines une enquête où 80% de la jeunesse voudrait entreprendre à cibler le domaine agricole comme domaine prioritaire d'intérêt pour l'investissement et l'entrepreneuriat. Il y a un projet qui est très avancé, le projet de plateforme industrielle qui va être un pôle d'attraction pour des investisseurs, une zone de transformation à aménager et avec une vocation également de création d'emplois. Nous accentuons la communication et la sensibilisation des jeunes sur les différents programmes qui sont mis en œuvre par le gouvernement.
Justement, Madame la Ministre, quel bilan faites-vous de toutes ces initiatives, ce mécanisme mis à la disposition de la jeunesse togolaise? Est-ce que cela réduit véritablement le taux de chômage? Et s'il y a possibilité de savoir ce taux de chômage aujourd'hui?
Les choses évoluent tellement. Vous avez la croissance de la population, l'augmentation de la population. Vous avez également une augmentation du nombre de jeunes qui sont déversés sur le marché. Mais la question de l'emploi, elle ne s'envisage pas comme uniquement dans le sens de l'emploi employeur-employé, mais plutôt entrepreneuriat, initiative individuelle, etc. et formalisation aussi du secteur informel. Nous avons le domaine du commerce et tout cela participe en fait à créer des emplois. Et quand on dit emploi, il y a l'auto-entrepreneuriat qui a un fort impact dans la résolution donc, de la problématique de l'emploi des jeunes. Il faut savoir que depuis 2014, un plan stratégique qui a été mis en place donne des résultats avec une réduction très significative du taux de chômage. Nous sommes en train d'absorber le stock de chômeurs des années précédentes tout en créant des emplois pour ceux qui sortent aujourd'hui.
Est-il possible d'avoir ce taux de chômage qui est en réduction?
Oui, le chômage en général a fortement baissé au cours des dernières années. Et le chômage des jeunes aujourd'hui, on retrouve des chiffres qui révèlent une variation d'à peu près 10 points entre 2008 et aujourd'hui.
Madame Myriam Dossou d'Almeida, ministre togolais du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes du Togo, elle répondait aux questions de Françoise Niamia.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de votre fidélité à Radio Vatican. Donatien Niembo vous dit au revoir. À la prochaine.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Quelle joie d'être toujours à toi, ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi.